Vous écoutez
RMC.
Alors, au programme jusqu'à minuit, les gars, la préparation physique. Ça fait des jours qu'on veut en parler dans l'after. On va prendre le temps de le faire ce soir. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Notre feuilleton. S'il te plaît, Daniel. Notre feuilleton sur la dinguerie des montres dans le foot. Nouvel épisode tout à l'heure. Et puis, le foot à l'écran, à l'occasion de la sortie d'un bouquin très intéressant de Julien et Gérard Camille, film documentaire, dessin animé, enfin tout ça. Souvent, on en parle, nous aussi, dans l'after, parce qu'on est consommateurs. Du foot à l'écran, des séries entre autres, mais pas que. Et on en parlera tout à l'heure avec les auteurs de ce bouquin, sans oublier les matchs en cours, bien sûr. Petit point score d'ailleurs, vous dire que dans la zone Afrique, le Maroc à la mi-temps mène 2-1 face à la Guinée. Dans la zone européenne, le Portugal mène face au Luxembourg 3-0, il reste une demi-heure à jouer. Et puis le match Angleterre-Hongrie, là on a repris en deuxième mi-temps, il reste une demi-heure, il y a un partout entre les deux équipes.
Voilà. Et surtout Gilbert, la Suède gagne contre la Grèce, et ça c'est pas bon pour l'Espagne parce que ils prennent 2 points d'avance et il y aura un Espagne-Suède qui va coûter très très cher.
Oui, mais Daniel Riolo te répondrait que comme ils ont participé au Final Four, ils ont une chance de plus de faire les barrages de la Coupe du Monde.
Ah, mais ça, j'ai pas compris. Moi, je comprends rien.
Daniel, avec Nico Villas, on te l'explique toutes les deux semaines.
Vu que tout le monde est perdu, passons à la préparation.
Tu veux que je te dise, hier, Nico Villas était là, à la place de Gilbert, et à un moment, il s'est retourné vers moi. Tu vois, je sentais, tu vois, dans son visage, je voyais qu'il y avait un problème. Là, vraiment, t'as mangé un truc, ça va pas. Il me dit non, j'ai bien réfléchi. Et en fait, je comprends rien au système, Ligue des Nations, les
aussi, il a abandonné.
Ça fait des années qu'il nous dit qu'il a tout compris.
Il est passé à confesse. Je devrais pas le dire, le secret de la confession,
oui,
tu vois.
Beau,
mais.
Il a dit. Daniel en confesseur, on aura tout vu.
Donc à partir du moment où Nico Villas, qui était quand même un peu le roi de la Ligue des Nations, des barrages et des machins, me dit
qu'il
a lâché.
C'est vrai que c'est un peu moins clair avec la Coupe du Monde qu'avec l'Euro.
C'était lui notre guide sur ça.
C'est vrai.
Et c'est lui à flancher.
En parlant de la Coupe du Monde, est-ce qu'on a...
On a un invité qui attend.
Parce que c'est tombé tout à l'heure, là, au même moment de Wenger, on n'a pas dit... Donc les équipes avant la Coupe du Monde, elles n'auront qu'une semaine de prépa.
Bah justement, ça tombe bien, on va en parler là maintenant. Avec,
c'est bon pour l'équipe de France.
Quelle passe décisive.
Voilà. Dans l'intervalle.
S'il vous plaît, accueillons, comme il se doit, Barthélémy Delecroix, qui est le directeur de la performance à Reims, au stade de Reims. Bonsoir Barthélémy.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous. Alors, on a souhaité faire ce dossier, Barthélémy, parce que la semaine, il y a 15 jours, au moment de la Ligue des Champions, on a eu un débat enflammé avec Lionel Charbonnier. C'était un soir où jouait l'OM en Europa League. Et Lionel nous disait, ouais, l'OM, ils tiendront pas, ils ont jamais fait de foncier cette année. Alors, nous, on lui a dit, mais arrête, Lionel, ça se fait plus, en fait, tout ça. Maintenant, les méthodes ont changé. Lui, foncier. Donc, on s'est dit, bon, faut quand même qu'on en sache un peu plus sur les pratiques qui ont cours maintenant. Comment ça se passe dans nos clubs? Est-ce que ça se passe comme il y a quelques années, là, en mode stage commando avant la saison? Est-ce que maintenant c'est tout avec le ballon, comme certains le disent? Donc, Barthélémy, on veut en savoir plus avec toi. Mais d'abord, c'est quoi un directeur de la performance, pour être précis? Parce que nous, on connaissait le préparateur physique, mais directeur de la performance, c'est quoi?
c'est vrai que c'est un métier qui a pris un peu d'ampleur ces dernières saisons. En fait, aujourd'hui, un directeur de la performance, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va diriger le département performance d'un club. Dans ce département, on va avoir le département médical avec le médecin, les kinés, donc tout ce qui va être attrait au médical, la préparation physique avec les préparateurs physiques, ainsi que les analystes de données qu'on va avoir et qui vont nous permettre de gérer au mieux les charges de travail des joueurs, les rythmes d'entraînement, la nutrition... aussi le nutritionniste, et donc tout ça c'est autour de différents axes qui sont donc la psychologie, la nutrition, le médical. On a aussi l'utilisation des nouvelles technologies avec, comme je le disais tout à l'heure, l'analyse de données et l'optimisation de la récupération.
Donc c'est-à-dire que toi tu chapeautes tout ça?
Et ben en fait ouais, exactement, moi je chapeaute tout ça, et mon objectif en fait c'est de donner des repères à tout le monde, d'harmoniser le travail, d'optimiser les pratiques au sein de ces différents pôles, pour qu'en fait on ait un véritable travail d'équipe qui soit basé sur la science, sur les évidences scientifiques, et de coordonner ces équipes pour que le staff technique, le staff médical, les dirigeants aient les meilleures informations pour prendre des décisions quand ils ont besoin de prendre des décisions.
Bon, ça c'est, alors c'est pas, y a, c'est pas Carin, c'est, hein, qui a désormais des directeurs de la performance.
Dans beaucoup de clubs,
c'est dans beaucoup de clubs maintenant en Ligue 1, hein, Barthélémy.
Exactement, oui, oui. Non, on n'est pas les premiers. Moi, quand j'étais, que j'ai démarré au LOSC en 2014, il y avait déjà un département performance qui avait été mis en place par Grégory Dupont, qui est passé par l'équipe de France et par le Real Madrid.
Et qui est aujourd'hui le plus grand club de France.
qui est consultant, oui, en effet, qui est consultant aujourd'hui, qui est consultant pour Strasbourg. Oui, c'est pas, il n'y a pas qu'à Reims que ça existe. Ça existe à Lens, puisque l'ancien responsable performance, par exemple, du stade de Reims est parti aujourd'hui à Lens. Ça existe à Lille. Ça existe dans
de nombreux,
à Lyon, exactement. Ça existe dans plusieurs clubs.
Bon, c'est déjà intéressant de savoir comment vous fonctionnez. Alors, rentrons dans la préparation physique en tant que telle. Est-ce qu'aujourd'hui, le foncier a toujours son importance, ou est-ce qu'aujourd'hui, on fait aussi ce qu'on appelait du foncier avant, pendant les matchs? Quel est le schéma le plus commun qu'on retrouve aujourd'hui?
C'est une question plus compliquée qu'elle n'y paraît, en fait, parce que il va y avoir différentes méthodes selon les préparateurs physiques. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, quels sont les indicateurs de performance? Qu'est-ce qui est aujourd'hui nécessaire à des joueurs pour être performant sur un terrain de foot? Et en fait, on se rend compte que il y a de plus en plus de sprints, de courses à haute intensité dans les matchs. Il y a des études qui montrent que plus de 80% des buts sont précédés d'actions explosives. Donc on se rend compte que c'est ça les qualités qu'il faut développer en priorité. Le problème, c'est que pour développer ces qualités et développer la capacité à répéter les efforts explosifs, il faut ce qu'on appelle une grosse VO2 max, donc en gros une grosse VMA.
Donc capacités
aérobies, voilà, respiratoires importantes, parce que ça va nous permettre.
Podcast RMC Running, si vous savez pas ce que c'est.
Ça va nous permettre de mieux récupérer entre ces actions explosives. Donc aujourd'hui, on va pas forcément axer la préparation physique, que ce soit en pré-saison ou pendant la saison, sur les footings de 45 minutes, parce qu'il faut absolument tenir 45 minutes, puisqu'une mi-temps c'est 45 minutes, ou 90 minutes. Parce qu'un match c'est 90 minutes ou plus, mais on va plutôt axer ça sur notre préparation physique sur le développement de ces capacités respiratoires à haute intensité, donc de cette VMA, cette VO2 max, pour répéter les efforts à très haute intensité, les efforts explosifs, et bien sûr développer les capacités d'explosivité des joueurs.
Donc ça veut dire travail spécifique là-dessus. Donc ça veut dire que la préparation à papa, genre footing en forêt pendant 15 jours, on touche pas le ballon, ça n'existe plus.
Ça existe. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Il y a peut-être encore des préparateurs physiques qui travaillent comme ça.
Plus chez les anciens. Voilà.
Mais voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui,
il y a encore des coachs qui le font, ça, la préparation que t'appelles à la papa, footing en forêt.
Sincèrement, moi, j'en ai pas connu. Après, en fait, on démarre toujours la saison par une reprise sur la première semaine par des footings un peu plus progressifs, parce qu'en fait, il faut réhabituer les organismes des joueurs qui n'ont plus forcément beaucoup travaillé, parce que même s'ils ont un programme à réaliser pendant les vacances, c'est beaucoup plus allégé que ce qu'ils vont faire avec le club. Donc, on reprend toujours par un peu de foncier sur les premières séances.
Ça va même plus loin que ça, Barthélémy, parce que aujourd'hui, c'est vraiment deux philosophies qui s'affrontent. L'ancienne génération qui disait. Là, j'ai une déclaration de.
Ça existe vraiment cet affrontement, Kevin?
Moi, j'ai l'impression que l'ancienne génération, elle n'existe plus, en fait.
Moi, j'ai l'impression. Non,
c'est une controverse
structurante dans laquelle. Et tu as parlé de science tout à l'heure. La science est faite de controverses. Elle n'est pas faite de certitudes. Elle est faite de principes comme ça qui de paradigmes, on disait hier encore, qui se succèdent les uns après les autres. L'histoire de la VO2 max, c'est quelque chose d'assez ancien. L'histoire de la préparation, dans la préparation physique, a été commencé à être utilisée en France assez tardivement, en fait, par rapport aux autres. Les Allemands étaient ceux qui les premiers à la mesurer à partir des années 50. Et nous, il y a eu une espèce de mode où, en fait, la question qu'il faut se poser quand tu veux réfléchir sur la préparation athlétique, c'est de savoir à quoi sert l'entraînement. Est-ce qu'il te sert à préparer la performance? Et auquel cas, t'as tout un tas de procédés qui te permettent de travailler en force, de travailler sur des efforts répétés, ou alors, est-ce que tu t'entraînes à jouer? Et auquel cas, c'est une autre école, qui est l'école plus hollandaise, et l'école catalane aussi, l'école du Barça, de dire, exactement comme un pianiste, pour s'entraîner, fais pas des tours de piano, il joue du piano. Bon, le footballeur.
Dit comme ça, effectivement.
Non, mais c'est ça.
Oui, pas bon.
Mais non, c'est ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que la question, c'est de savoir si l'entraînement est censé reproduire les conditions de match, ou alors il est censé préparer de manière un peu abstraite à une préparation athlétique qui va être ensuite utilisée sur un travail de charge et un travail de force. Et donc la question, juste terminer, il y a deux conseils qu'il faut bien comprendre. C'est d'un côté, il y a la force, et de l'autre côté, il y a l'intensité. Et tu travailles, et tu as deux écoles qui s'affrontent.
Qu'est-ce que
tu
appelles la force ?
Le travail en force, travail de charge, c'est-à-dire que tu vas charger ton organisme, mais tu vas parier sur des récupérations longues qui vont te permettre ensuite, par le processus de régénération vitale.
C'est quoi, c'est genre le foncier, ça ?
Ouais, c'est le foncier. Je crois, c'est ça. Après, Barthélémy, c'est à toi de préciser.
Moi,
dans le cadre philosophique de la réflexion, il faut bien comprendre que c'est deux visions du monde quasiment qui s'opposent, et tu as des controverses très violentes.
Tu veux lui faire la philosophie ?
Non, j'ai bossé dessus en travaillant sur Guardiola et Mourinho, qui ont été en Europe ceux qui ont un peu démocratisé la question du alors il y a eu l'Hollandais d'abord avec Van Gaal, mais ensuite qui sont les deux d'ailleurs des élèves de Van Gaal qui ont vraiment révolutionné Guardiola avec Paco Cerullo notamment, qui ont révolutionné la préparation athlétique en disant Paco Cerullo préparateur de Cruyff et ensuite idéologue du Barça qui lui-même préparateur athlétique, il dit la préparation athlétique n'existe pas. Il dit ça n'existe pas.
La préparation athlétique n'existe pas.
Et où tu t'entraînes. C'est juste ça n'existe pas.
Barthélémy, mort de rire.
Bon, là, ça fait mal, là, quand même. Non, ça pique un peu.
Ça veut pas dire que t'as pas un travail sur l'intensité des courses, sur. Il n'y a pas de travail. Évidemment qu'il y a un travail physique. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas de spécificité en disant. Il dit qu'il y a une spécificité du footballeur et c'est sur cette spécificité-là qu'il faut travailler.
Mais justement,
Barthélémy,
citation de Paco Cerullo.
Et bien, tu vas pouvoir la donner dans quelques instants. Et du Barthélémy, pour répondre parce que j'ai l'impression qu'il s'est un peu étranglé là en entendant.
C'est étranglé. Les gens qui ont cité Thibaut ont eu des résultats dans le foot, il me semble quoi. C'est.
Bah on va voir.
C'est ça en fait.
Mais en fait, je pense que
c'est vrai que ça s'oppose.
C'est surtout une question sémantique en fait.
Mais ces gens-là,
il est là. Allez, attention, on est dans l'after pour continuer le débat.
Pintus, c'est de ses méthodes à lui quoi.
On en reparle tout de suite.